Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que l'on dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
La petite tempête qui ouvre et conclut la pièce alterne l'oranger veiné de vert avec quelques taches noires. Le développement central est plus lumineux, le second thème très mélodique, enrobé d'arpèges sinueux, et bleu-orange pour la première présentation, vert-orange pour la deuxième présentation. Couleur dominante de toute l'œuvre, violet, orangé, pourpre. Ce sont les mots du compositeur Olivier Messiaen, des indications de couleurs qui accompagnent un prélude qu'il a composé à la fin des années 20 et qui porte le titre « Un reflet dans le vent ». Sur un disque, « Un reflet dans le vent » côtoie brouillard, les fées sont d'exquises danseuses ou feux d'artifice. D'autres préludes, composés par Claude Debussy une quinzaine d'années plus tôt. Célimène Daudet, vous êtes pianiste, vous avez fait paraître un disque qui fait se succéder les préludes pour piano de Debussy et Messiaen en renversant leur chronologie. Il s'appelle Messiaen Debussy, prélude pour piano. Il est paru sur le label Nomad Music. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
On commence, comme dans votre disque, par Messiaen.
Début de son chapitre sur les préludes de Chopin, oui. Dit, je me suis toujours demandé pourquoi on parle des préludes de Chopin, et c'est le prélude de quoi ? Moi, je trouve que c'est une question tout à fait bête. pédante, que comme si en effet il fallait répondre par la bourse ou la vie, de quoi le prélude est le prélude. Mais justement, si le prélude ne préludait à rien, si son essence même n'était pas justement le préludé en général, c'est ça le mystère musical du prélude, c'est qu'il prélude en général sans préluder à rien, n'est-ce pas, et qu'il n'est pas nécessaire de dire à quoi il prélude. Et c'est la différence entre le prélude qui est un mystère musical et l'introduction, l'avant-propos, bien l'avant-propos de quel propos, l'introduction à quoi, à un livre, on l'indique sur la couverture. Mais le prélude est de telle sorte qu'il n'est pas obligé de dire de quoi il est le prélude. Il est le prélude en général. Et puis après tout, n'est-ce pas la vie elle-même et la musique tout entière qui est ce prélude? Ce prélude est quelque chose qui n'adviendra jamais et qui est éternellement à l'état de prélude, dont la conclusion n'arrive jamais. Donc, à mon avis, on est digne d'être... Je ne suis pas un musicien parce que je ne suis pas plus digne que les autres, mais d'avoir accès à la musique dans la mesure où on ne demande pas de quoi le prélude est le prélude.
Célimène Daudet, on entend ici un prélude de Messiaen qui figure dans votre album, Un reflet dans le vent, celui que je citais en introduction. Mêlé à la voix de Vladimir Yankelevitch, une archive où il parle du prélude, l'idée que le prélude ne prélude à rien. Comment Olivier Messiaen est arrivé dans votre parcours?
Ah, c'est une longue histoire. Olivier Messiaen est arrivé assez tôt dans mon parcours, mais avec d'autres œuvres qu'il écrit plus tardivement dans sa vie, que les mélomanes connaissent bien, Les 20 regards sur l'enfant Jésus, par exemple, qui sont des œuvres vraiment d'inspiration spirituelle et religieuse. Ça, c'est une musique que j'ai découverte assez jeune, mais ces préludes, je les ai en fait découverts il y a seulement quelques années, alors que j'étais plutôt plongée dans la musique de Debussy, dont on attendra peut-être des extraits plus tard, mais c'est... J'adorais les préludes de Debussy qui, pour moi, étaient un monde, représentaient un monde de suggestions, d'évocations, presque de non-dits, et qui était une porte ouverte sur le rêve et sur une imagination complètement libérée. Et puis, un peu par hasard, je me suis plongée dans la partition d'Olivier Messiaen, dans ses préludes, et j'ai appris à cette occasion que c'était en fait une œuvre de jeunesse de Messiaen. Et en mettant les mains dedans, comme on dit dans notre jargon, j'ai tout de suite perçu une forme de correspondance ou de réponse à la musique de Debussy et plus particulièrement à ses préludes. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans l'univers des préludes de Messiaen. En fait, en sentant cette, comme une filiation, comme pas un héritage, mais une sorte de main tendue entre l'univers de Debussy et celui de Messiaen. Et j'ai du coup, réenvisager aussi ma manière de voir Messiaen tel que je le voyais avant, au regard de cette correspondance entre deux compositeurs qui en fait ne s'étaient pas ou très peu côtoyés.
Vous parlez d'une filiation imaginaire dans le livret qui accompagne le disque. Ce serait de cet ordre, de quelque chose de la fiction?
C'est pas de l'ordre de la fiction totalement, c'est plutôt de l'ordre de la sensation, ou de l'instinct presque. D'un point de vue purement musicologique, on peut pas dire qu'il y ait une filiation directe entre Debussy et Messiaen. On sait quand même que Messiaen a reçu, alors qu'il avait 10 ans, une partition en cadeau, une partition de Debussy. On lui a offert la partition de Péléas et Mélisande, cette grande œuvre emblématique de l'univers debussiste, et que quand il l'a lu, il avait que 10 ans, il écrit lui-même qu'il en a pleuré d'émotion. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette idée de filiation, de se dire que sans se connaître, puisque Messiaen avait 10 ans en 1918, l'année de la mort de Debussy, donc ils se sont évidemment pas connus, sans se connaître, ces deux hommes se sont transmis quelque chose, et que probablement l'influence qu'a pu avoir Debussy sur Messiaen a été immense, parce que quand on est frappé comme ça à l'âge de 10 ans, quand on est enfant et qu'on est frappé au point d'en pleurer par une œuvre, je pense que c'est un marqueur important pour la créativité future.
Et puis, mais chez Messiaen, ce sont des œuvres de jeunesse, alors que chez Debussy, c'est les œuvres d'une personne plus mûre.
Complètement.
Est-ce
ouais.
qu'il y avait aussi l'idée dans votre album, vous faites succéder donc les préludes d'abord de Messiaen, puis ceux de Debussy, de finalement retracer quelque chose de l'ordre de l'âge de la vie, de commencer par des œuvres de jeunesse et après d'avoir des œuvres
oui,
de quelqu'un de plus affirmé?
C'est exactement ça, en fait. Je trouvais assez beau de présenter le travail d'un jeune homme, d'abord, et aussi de faire redécouvrir ce Messian moins connu que le Messian plus tardif, et de ne pas le présenter comme un compositeur qui serait l'héritier d'un autre, mais vraiment de mettre en avant la jeunesse et l'inspiration et la puissance créatrice de ce jeune, très jeune compositeur. En fait, ces préludes-là sont quasiment la toute première œuvre d'Olivier Messiaen. Il avait composé d'autres petites pièces avant, mais qu'il n'a pas tellement mis en valeur, reconnu. Voilà, donc ces préludes, c'est vraiment la première œuvre, on va dire, assumée, présentée au public, avec laquelle il a gagné un prix, d'ailleurs, de composition. Donc c'est, j'avais envie d'ouvrir le disque avec cet élan créatif tout jeune. Et en même temps, déjà plein d'un langage vraiment singulier, assumé, ce langage qu'on retrouvera plus tard dans ses œuvres et qui fait que dès qu'on écoute, on se dit c'est du Messiaen. On reconnaît tout de suite ce style et ses couleurs. Et puis ensuite, la deuxième partie du disque est consacrée à un compositeur plus mûr, plus abouti peut-être. Donc Debussy, qui a composé ses préludes quelques années avant la fin de sa vie. Avec là un langage, du coup, qui, même s'il est antérieur aux œuvres de Messiaen, est très poussé, très affirmé, très travaillé et très, extrêmement mûr. Enfin, on sent vraiment une maturité dans son écriture, dans son langage. Ces préludes de Debussy, moi, je les travaille depuis plus de 20 ans. Il m'accompagne sur scène depuis plus de 20 ans. J'ai appris énormément en les travaillant, en les retravaillant, en les proposant à différents publics. Et c'est vrai qu'on peut creuser indéfiniment dans cette matière-là.
Il y a cette forme aussi, le prélude, dont on entendait Vladimir Yankelevitch commenter dans une archive la forme, où il dit que le prélude, ça ne doit préluder à rien. Comment vous recevez cette parole-là?
J'aime beaucoup cet extrait. Et alors moi, je dirais que oui, ça peut préluder à rien, dans la mesure où c'est une œuvre. Il y a quelque chose d'éphémère dans le prélude, il y a quelque chose de l'ordre de l'instant. Ce n'est pas une ouverture vers autre chose, il n'y a pas de suite à un prélude. Cela dit, d'un point de vue vraiment historique, avant, un prélude était, à l'époque de Bach par exemple, ou à l'époque baroque, un prélude était la première pièce d'une succession d'autres pièces dans les suites de danse. Par exemple, il y avait un prélude, ensuite une allemande, une sarabande, enfin toute une succession de danse, et le prélude était l'ouverture de ces œuvres-là. Mais c'est vrai que quand on pense au prélude de Debussy ou Messiaen, ou même avant ceux de Chopin, par exemple, dont Yankelevitch parle brièvement, ce sont des pièces qui sont des moments, vraiment des moments, qui arrivent à capter l'auditeur en finalement quelques minutes, parfois pas plus de 3 ou 4 minutes, et à créer un monde à part entière, avec une puissance imaginaire assez forte, en fait. C'est un univers qui permet, je pense, à l'auditeur de s'évader et de s'évader dans un univers extrêmement éloigné en un temps extrêmement court. Et il n'y a pas besoin de prologue, de développement. C'est l'art, pour moi, c'est vraiment l'art de l'instant, l'art du temps présent, l'art de la suspension aussi.
Ce serait une introduction sans conclusion aussi, une espèce d'ouverture, mais qui n'aboutit pas à quelque chose de, enfin, qui n'est jamais fermé.
Alors oui, c'est jamais fermé, et c'est en ça que je dirais que c'est un prélude à rien, mais aussi c'est un prélude à tout. Tout est possible après l'écoute d'un prélude, et j'aime bien repenser à ce que Debussy a proposé dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il a écrit la musique, et à la fin de la musique, et proposé le titre. Par exemple, on a le premier prélude du second livre là, que j'ai enregistré, qui s'appelle Brouillard. Donc on a toute cette musique, et après la dernière barre de mesure, on a 3 petits points, brouillard. Donc c'est une forme, encore une fois, de suggestion, de proposition, d'évocation. Cela pourrait être du brouillard, mais peut-être que cela pourrait être autre chose, ça pourrait être tout et rien. À vous de vous laisser porter par ce que la musique vous a proposé. Et j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de programme imposé, que ce ne soit pas une musique à proprement parler descriptive, mais vraiment suggestive. C'est en ça que c'est un prélude, peut-être à rien, mais aussi peut-être à tout, en tout cas à tout ce que ça peut nous évoquer.
Et là, l'ordre est inversé aussi, puisque le titre arrive à la fin.
L'ordre est inversé, le titre arrive à la fin. Alors on sait que Debussy avait quand même un goût pour la provocation assez prononcé. Alors est-ce que c'est... On peut se poser la question, est-ce que c'est un peu de provocation, un brin d'humour de sa part, ou est-ce que c'est vraiment, et moi je crois plutôt à ça, cette porte ouverte, cette liberté donner à l'auditeur et à l'interprète.
Céline Daudet, on écoute cette fois donc un prélude de Debussy, La terrasse des audiences du clair de lune. Qu'est-ce qui change dans le fait de bouleverser la chronologie, au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, qu'est-ce qui peut gêner dans la chronologie, dans l'étude de la musique et même dans l'écoute de la musique?
Je ne sais pas si c'est... Ça peut en tout cas formater un tout petit peu l'écoute et... Et la vision qu'on aurait de la musique et de ce que propose chacun de ses compositeurs. Dans l'histoire de la musique, mais l'histoire de manière générale, le fait d'installer une chronologie induit que tel événement, ou là en l'occurrence telle musique ou tel compositeur, serait peut-être plus avancé, plus évolué, ou en tout cas dépendante de ce qui s'est passé précédemment. Et je trouve que ça bride un tout petit peu la capacité, notre capacité à croiser des choses qui pourtant font sens ensemble, et je trouve qu'inverser la chronologie, ça permet aussi d'avoir un regard différent sur ce qui s'est passé précédemment. Par exemple, dans le cas de Messiaen et Debussy, j'écoute et je travaille Debussy différemment parce que j'ai découvert la musique de Messiaen qui a pourtant été composée 10 ans plus tard, etc. Mais c'est le cas aussi de manière générale dans mon travail, c'est-à-dire que je trouve que j'apprends toujours beaucoup de ces échanges et de ces correspondances entre différents compositeurs, différentes époques, sans pour autant toujours tenir compte d'une chronologie qui serait imposée par une science musicologique ou historique.
C'était l'idée de défaire aussi l'idée selon laquelle il y aurait un progrès en art.
J'aime pas tellement cette idée de progrès, effectivement, parce qu'il y a souvent un retour... non pas comme si les choses se répétaient, elles sont toujours différentes, toujours en mouvement et toujours. C'est pas tellement l'idée d'un progrès, c'est l'idée que les choses seraient figées et puis qu'ensuite on passerait à une étape, une autre étape, qu'on pourrait appeler un progrès ou en tout cas une évolution qui serait fondamentalement différente. Il y a des choses qui sont du passé, qui sont fondamentalement actuelles, qui répondent à des questions d'aujourd'hui, et il y a des choses d'aujourd'hui qui nous parlent du passé. Donc le progrès en art, pour moi, c'est le progrès et l'art, ce sont deux notions qui fonctionnent pas ensemble. En fait, j'ai beaucoup de mal à mettre ces deux mots-là ensemble. Je dirais plutôt Peut-être que l'art se nourrit de ce qui s'est passé précédemment, mais aussi l'art est précurseur, visionnaire, donc se appelle ce qui se passera peut-être plus tard. Enfin, je trouve que la notion de chronologie, en tout cas de temps, n'est pas forcément appropriée dans un processus, en tout cas un processus créatif.
Quelle importance elle a eu pour vous, la science de la musique, la musicologie dans votre parcours ?
On apprend beaucoup de choses en réalité quand on s'intéresse à la musicologie et je trouve qu'il faut aussi savoir les désapprendre. C'est à mon avis fondamental de savoir dans quel contexte par exemple a été composée telle œuvre ou telle autre, à quel moment de la vie du compositeur cela se situe, quel est l'héritage de ce compositeur, quels ont été ses maîtres, comment il en est arrivé à développer tel langage, quel était le contexte culturel, social, historique, politique. Donc je dirais que c'est plus que la musicologie, c'est la musicologie mais aussi l'histoire, et c'est la culture au sens large de ce qui du contexte dans lequel une œuvre advient. Comment un compositeur prend sa plume et écrit cette œuvre-là et pas une autre à ce moment-là. Donc ça c'est important, mais je trouve qu'ensuite il faut revenir à quelque chose de plus instinctif, plus direct entre ce que la musique nous évoque, nous procure comme sensation même physique. Le rôle de l'interprète en fait, qui est le mien, c'est bien sûr de transmettre ce qu'on pense être la pensée du compositeur ou les désirs du compositeur, mais c'est aussi de créer ensemble quelque chose, de proposer une vision d'une œuvre. Et pour cela, je pense qu'il faut arriver à se défaire de certaines chaînes du savoir. Il faut aussi savoir les avoir quelque part en filigrane, mais savoir s'en émanciper et vraiment être à l'écoute de ce que l'œuvre nous dit à nous d'un point de vue très personnel.
C'est un disque aussi où vous avez dû composer l'ordre des titres. Comment vous vous y êtes pris ?
Alors les titres, j'ai suivi l'ordre simplement en fait. Là j'ai suivi l'ordre des compositeurs, c'est-à-dire qu'il y a 8 préludes de Messiaen dans un ordre proposé par Messiaen et 12 préludes de Debussy dans l'ordre proposé par Debussy. J'ai conservé l'ordre, même si rien ne nous dit, et ni un compositeur ni l'autre ne nous a imposé de jouer les préludes dans cet ordre-là. Mais là, j'ai simplement suivi ce que la partition proposait. J'ai inversé la chronologie, comme on le disait tout à l'heure. J'ai d'abord proposé Olivier Messiaen, puis Debussy. Mais ensuite, j'ai respecté l'ordre de la partition.
Et quels autres effets concrets ce jeu de collusion entre Messiaen et Debussy a eu chez vous ?
Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce qui m'a surpris, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est la manière dont ces deux compositeurs utilisent le son pour devenir presque une couleur, et aussi utilisent le temps comme si le temps devenait espace et non plus seulement temps. Donc, et d'ailleurs, alors là j'invente rien du tout, parce que Messiaen disait lui-même que pour lui le son était couleur et le temps était espace, mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant dans ces deux recueils-là. Aussi cette sensation dans les deux recueils, et que j'ai eu envie de mettre en avant, qu'il y a un entre-note qui est très puissant dans les deux univers. Il y a bien sûr les sons, les notes, mais il y a ce qui se passe entre les notes, aussi bien en termes de résonance, de vibration, que de silence. Et donc, c'est mettre en regard ces deux compositeurs, c'est aller, je pense, plus loin dans l'écoute de ce qu'il se passe entre les choses, dans ce qui est suggéré toujours entre, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la vie, parfois, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qui se passe, mais ce qui se passe entre, ce qui se joue entre, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue factuel, c'est toujours la petite part, la petite frontière, parfois difficile à capter, de l'entre-deux.
Je lisais en introduction les indications de couleurs qui étaient données par Messiaen. Comment vous les avez reçues, vous, ces indications extrêmement précises, le bleu, orangé?
Alors là, je crois qu'il faut... Je les ai reçus avec beaucoup de second degré, en fait, parce que Messiaen avait ce don de synesthésie. Voilà, donc il voyait des couleurs sur des sons, mais des couleurs très précises, extrêmement précises, des associations de couleurs. Et alors ça, j'ai trouvé ça vraiment amusant, et l'anecdote était vraiment amusante, mais si on n'a pas soi-même ce don de synesthésie, c'est en fait pas très parlant. En revanche, ce qui est très parlant, c'est la sensation de couleur remplaçant le son. Enfin, comment expliquer ça ? C'est une sensation qui est difficile à exprimer, mais au piano, on a cette possibilité d'associer plusieurs harmonies, donc plusieurs accords entre eux. Et ces associations peuvent créer une texture nouvelle d'un point de vue sonore qui peut s'apparenter, qui pourrait s'apparenter à ce que serait la couleur.
À la création d'une couleur.
Voilà, la création d'une couleur. Et c'est ce qui est vraiment très poussé chez Messiaen et chez Debussy, dans ces deux recueils de préludes. Donc ce qui m'intéressait, c'est vraiment la couleur au sens sonore. Mais la couleur telle que Messiaen l'a décrit, c'est amusant parce que ça permet de mieux cerner qui était le personnage et quel était son processus créatif. Mais en fait, c'est, je pense, pas forcément à prendre au pied de la lettre. Voilà, je suis pas là pour faire du gris veiné de bleu ou de l'orange teinté de rouge. C'est assez compliqué à réaliser comme ça. C'était vraiment sa vision des choses.
Mais c'est finalement comme pour les titres. Là, le titre qu'on vient d'entendre...
La terrasse des audiences du clair de lune.
La terrasse des audiences du clair de lune, c'est quelque chose, on voit rien. Enfin, on a beaucoup de mal à imaginer ce que peut être la terrasse des audiences.
On voit rien ou on voit tout. Alors justement, moi j'aime bien parce que c'est chacun est totalement libre d'y voir ce qu'il veut ou ce qu'il a envie d'imaginer ou de n'y rien voir du tout. En tout cas, c'est un monde de mystère et d'énigmes tout de suite qui s'ouvre. Rien que le titre, La terrasse des audiences du clair de lune, d'abord, je trouve ça très poétique comme titre. En même temps abstrait, en même temps très imagé. Très mystérieux, très... Oui, je trouve qu'on est... Je trouve que ça ouvre la porte à une immense liberté d'imagination. Et je trouve que c'est ça qui est fort, en fait, dans cette musique-là, c'est de pas enfermer l'auditeur dans une image obligée ou dans une forme obligée. C'est la musique de la liberté pour moi. Même si, et ça c'est intéressant pour l'interprète de le relever, c'est que même si l'écriture en elle-même est extrêmement précise, donc pour l'interprète il y a quelque chose de très dicté par le compositeur, surtout chez Debussy, mais aussi chez Messiaen, tout est indiqué. La manière de jouer telle note, tel accord, telle nuance, tout est indiqué d'un point de vue extrêmement précis, voire maniaque. Et malgré tout, ce qui doit émerger, c'est une liberté. Donc c'est une forme d'improvisation dans une musique très, 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 très précise.
Pour moi, la vraie, la seule musique a toujours existé dans les bruits de la nature. L'harmonie du vent dans les arbres, le rythme des vagues de la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches cassées, du choc des pierres, des différents cris d'animaux sont pour moi la véritable musique. Si j'ai choisi pour maître les oiseaux, c'est que la vie est courte et que noter des chants d'oiseaux est tout de même plus facile à un musicien que la transcription des harmonies du vent ou du rythme des flots.
Autrement dit, si je vous comprends bien, la musique faite par les hommes, et donc aussi celle faite par vous-même, ne saurait être qu'une approximation assez grossière de la musique infiniment plus subtile de la nature. Car enfin, si vous notez des chants d'oiseaux, c'est pour les utiliser dans votre œuvre. Mais cette utilisation ne va pas, si mes renseignements sont exacts, sans un grossissement assez considérable d'intervalle et une approximation assez grande de timbre. La question peut donc se poser de savoir quel est l'intérêt profond et général que vous trouvez à ces recherches et à ce travail.
Une telle démarche n'a rien d'original. Elle continue celle des peintres, et spécialement des paysagistes, qui vont au bord de la rivière ou dans un sous-bois prendre des leçons de dessin, de couleurs et d'éclairage. Ce qui m'étonne, c'est que si peu de musiciens aient fait comme moi, exception faite pour Wagner et Berlioz et leur amour des montagnes, et surtout pour Debussy et sa passion de l'élément liquide, de l'eau et des reflets dans l'eau.
Slimane Daudet, on entend ici une archive, la voix d'Olivier Messiaen en 1957, qui parle des bruits de la nature qui seraient selon lui la véritable musique. Comment vous recevez cette parole-là ?
Alors de la part de Messiaen, ça me paraît assez évident, puisque c'est vrai que dans son œuvre, il a énormément utilisé les chants d'oiseaux. Il s'est basé sur ses recherches et ses notations précises de chants d'oiseaux pour pouvoir écrire énormément d'œuvres, notamment pour piano, mais aussi pour d'autres instruments, qui imitent le chant des oiseaux. Je trouve que ce qui est beau, c'est de se dire que, justement, on parlait tout à l'heure de la science, de la musique et de la musicologie, c'est que à la fois c'est un travail de recherche de la part de Messiaen, de s'intéresser, en tout cas de sortir de ce qui est le timbre pur de l'instrument, mais d'essayer de reproduire à l'instrument des bruits de la vie et de la nature. Mais justement, c'est cette manière qu'il a de ne pas, de s'extraire d'un processus de compositeur, compositionnel, qui est strictement académique, et d'aller puiser son inspiration dans d'autres univers. Alors lui, c'est la nature, mais on sait aussi que d'autres compositeurs ont écrit à partir de ce qu'ils notaient. Par exemple, on sait que Bartok allait se promener dans les campagnes roumaines et noter les chants des paysans, et à partir de ça, écrivait une musique dite savante. Donc j'aime cette démarche de recherche, mais qui n'est pas purement intellectuelle, en fait, qui est très sensible. Et chez Messiaen, ce qu'on entend là, en tout cas dans ce qu'il dit, et ce qu'on entend dans sa musique, c'est la manière dont les bruits de la nature sont source d'inspiration pour lui. Il parle aussi de la musique de Debussy en disant que l'eau, l'élément liquide, était très présent chez Debussy, et c'est totalement vrai. On retrouve, pas toujours dans ses préludes, quoique, mais dans d'autres œuvres, on retrouve vraiment cette capacité à imiter, à se rapprocher le plus possible du ruissellement, du miroitement. C'est plus que l'élément liquide, en fait. C'est l'eau associée
en contact
avec la lumière. Les reflets, les autres éléments de la nature.
Est-ce que les éléments ont été importants au moment de l'enregistrement ou pour vous dans l'interprétation des préludes ?
Je dirais pas directement, mais ce qui est important en tant que vraiment pianiste, je dis pianiste en me touchant les mains, parce que c'est vraiment de sentir comprendre comment reproduire au piano, de comment se rapprocher le plus possible avec un instrument qui est très très mécanique. En fait, le piano, c'est un instrument qui est fait d'énormément de pièces mécaniques. C'est très complexe d'un point de vue mécanique.
C'est une machine.
C'est une vraie machine. Et comment arriver à reproduire un élément aussi naturel que l'eau, le vent, le souffle, la lumière, etc. Et en fait, ça, c'est assez fascinant de voir à quel point on peut aller loin dans ce travail-là grâce au choix des plans sonores, à l'utilisation de la pédale, et à quel point on peut aller très très loin dans cette palette de couleurs d'évocations d'éléments de la nature, avec un instrument qui a priori est une vraie petite machine.
Est-ce que vous avez écouté d'autres interprétations des préludes ? Est-ce qu'il y en a avant de les enregistrer ?
Oui, alors j'ai écouté beaucoup de versions, mais il y a très longtemps. C'est vrai que quand j'enregistre un disque, et même quand je prépare un concert, j'ai tendance à ne pas écouter beaucoup de versions. Plus l'échéance approche, et moins j'en écoute. Je crois que j'ai besoin de m'imprégner complètement de cette musique et qu'un discours personnel advienne, et que ce ne soit pas forcément une copie plus ou moins consciente de ce que j'ai écouté ou de ce que j'ai admiré précédemment. Donc en général, j'écoute des versions au tout début de mon travail, des années en amont. Et puis, plus le temps passe, plus la musique, je pense, devient personnelle, ou en tout cas, plus je me l'approprie, et moins j'ai cette nécessité d'écouter d'autres versions. J'aime bien le faire après, en fait. Une fois que l'enregistrement est fait, à ce moment-là, je peux réécouter d'autres versions. Mais sinon, j'essaye plutôt de ne pas le faire, et j'ai même pas du tout envie de le faire. J'ai plutôt besoin d'être juste que le travail se fasse entre la partition et mon instrument, c'est tout.
Quel effet ça vous fait de vous entendre, d'entendre vos préludes ?
Alors ça me semble déjà être un monde très lointain pour moi, parce que l'enregistrement, c'est comme une photographie d'un instant. Ce disque, par exemple, je l'ai enregistré il y a maintenant plus d'un an. Donc ce qu'on entend aujourd'hui, en fait, a été enregistré il y a plus d'un an. Et je les ai rejoués, ces préludes, entre-temps, mais je les joue déjà différemment, en fait. Aussitôt l'enregistrement terminé, j'ai d'autres propositions, j'ai d'autres idées. Et un enregistrement, C'est toute la question de l'enregistrement. On peut le voir de manière assez figée, se dire est-ce qu'un disque, ça propose une version figée d'une œuvre. Alors ça, c'est une manière un peu négative de le voir. Moi, j'aime bien me dire que c'est la photographie d'un instant de vie, d'un instant de travail, mais que le travail ne s'arrête pas à l'enregistrement. Donc quand je m'écoute, j'entends finalement celle que j'étais ou ce que je proposais il y a un an. Et puis maintenant, c'est à nouveau différent, c'est encore autre chose.
Et dans le cas des préludes, vous disiez tout à l'heure que c'est justement quelque chose d'éphémère et quelque chose de l'instant. C'est aussi une manière de capter tout simplement cet instant-là. Ça a été une succession d'instants.
C'était une succession d'instants dans un instant donné, d'un instant de ma vie. Et en même temps, l'enregistrement, paradoxalement, ça dure 3 jours et on joue plusieurs fois le même prélude. Et toute la difficulté est d'essayer de garder cette fraîcheur et cette notion d'instant suspendu et de ne pas essayer de faire une photocopie de ce qu'on a fait 10 minutes avant ou 10 jours avant. Enfin, moi, j'essaye d'échapper à ça de manière générale dans mon travail. C'est que je refuse de m'imiter moi-même, en fait. Je ne veux pas essayer de refaire. Si j'ai fait un bon concert, j'essaye pas de refaire le même concert quelques jours plus tard. Il va se passer encore autre chose. Ce sera un autre public. Ce sera une autre atmosphère, j'aurai un autre rythme cardiaque et il se sera passé d'autres choses entre-temps. Donc j'essaye de vraiment d'échapper à cette tentation, c'est vraiment une tentation de se rapprocher de ce qui a fonctionné ou de ce qui nous a paru être bien. Tout ça c'est très subjectif en plus. Qu'est-ce qu'un bon concert? Enfin, c'est assez difficile de le savoir. Donc que ce soit dans l'enregistrement ou dans le concert, j'essaye de ne pas, surtout pas photocopier ce qui a déjà été fait.
Vous vous méfiez de la virtuosité, dans ce sens-là? Dans le sens où il y aurait quelque chose qui relèverait de la perfection et qu'il faudrait reproduire?
Pas tellement de la perfection. En fait, on pourrait dire qu'il y a une certaine perfection technique à atteindre pour un enregistrement ou pour un concert, mais ce n'est pas une question qui m'intéresse vraiment. Non, je ne me méfie pas de ça. J'ai vraiment une grande envie de rendre vivante la musique et de rendre le moment du concert unique, singulier, et aussi bien pour moi que pour le public, enfin que ce soit un moment qui nous est réservé à nous en tant que public et interprète. J'ai envie que ce soit vivant, que ça respire, qu'on soit là et qu'on respire ensemble, qu'il y ait ce partage, cet échange entre le public et l'interprète. Et donc je me méfie de tout ce qui pourrait m'éloigner de ça. Et ce qui peut m'éloigner de ça, je pense comme beaucoup d'artistes, c'est d'avoir envie de trop bien faire. C'est pas la perfection technique, hein, mais d'être persuadé qu'il n'y a qu'une manière de bien faire. Voilà, d'être persuadé que ce que j'ai
fait,
qu'il y aurait une version unique et que ce que j'ai fait il y a 3 semaines, c'était vraiment très bien, il faut absolument que je le reproduise. Non, ça, je fuis ça vraiment.
C'est-à-dire, il faut savoir que le peuple haïtien que nous sommes maintenant n'est pas né de la dernière pluie. A voyagé, a pris le bateau, passage du milieu, a fait l'Atlantique. Et ensuite, ils n'ont pas oublié leur première chanson, ni oublié leur premier objet fétiche, c'est-à-dire les petites amulettes, ni oublié comment taper dans les mains pour chanter. Donc, ce qui veut dire, dès la traversée, tout était là. Une jeune esclave avec 3 petits-enfants à la mamelle, eh bien, celle-là, elle fait une mélopée, une petite chanson, avec sa langue, fond, yoruba, ou peut-être des bribes d'espagnol, ou peut-être des petits bribes de mots français. Donc tout ça se mélange, c'est un carrefour d'influences culturelles multiples. Déjà, si on reste attaché à l'organologie, la musique que l'on joue avec les instruments que l'on a, nos instruments n'appartiennent pas aux autres pays. On a toute une batterie de tambours, par exemple, le culte pétro, c'est une sorte de musique avec une batterie de tambours, au moins 3-4 tambours, qui est jouée d'une certaine manière, avec aussi des dessins, pour dire que ce style de dessin représente telle famille d'instruments. Ce n'est pas un solfège, mais presque. Mm-hmm. On dit aussi la famille des congos, c'est-à-dire des bribes de musique qui viennent du Congo, mais transformées, créolisées. Une autre batterie de tambour qui correspond au rythme rada, c'est-à-dire ce qui viendrait de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout ça mélangé avec des modes archaïques, bien sûr, du chant grégorien, de Venite Creator, de Gloria in Excelsis Deo. Maintenant, le genre en particulier, c'est qu'il y a des instruments qui n'existent qu'en Haïti, comme par exemple pour parler des vaccines, ou pour parler aussi de comment on a pris la contredanse française, ça, ou même des petites chansons enfantines. Et puis, l'oralité, le texte n'arrive pas directement dans nos oreilles de la même manière. Et puis, déjà, ce véhicule-là oral fait qu'on transforme naturellement les textes. C'est pareil pour le chant des troubadours en France. Un troubadour va composer un morceau dans une ville donnée, et puis le temps que ça arrive à Paris, le texte a déjà bougé. C'est le téléphone arabe, pratiquement.
Slimane Daudet, on entend ici la voix du compositeur et guitariste Amos Coulanges, qui est haïtien, une archive de France Culture de 2010. Vous avez organisé, vous avez monté tout un projet autour de Haïti, de l'île d'Haïti, notamment après le séisme de 2010, ça s'appelle le Haïti Piano Project. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette initiative-là? Elle est née comment?
Alors moi je suis d'origine haïtienne, ma mère est haïtienne et mon père est français. C'est un pays que je connaissais assez peu, j'avais très peu eu l'occasion d'y aller étant enfant, et j'avais des parfums de la culture haïtienne grâce à ma mère, mais c'était un pays qui m'était étranger, vraiment. Et puis, alors après le séisme, mais je pense que c'était finalement une douloureuse coïncidence, mais après le séisme, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de ce pays, de me rapprocher de mes racines, de découvrir Haïti, de découvrir les gens là-bas, la culture. Et la manière qui me semblait la plus naturelle pour moi, c'était d'aller y donner un concert, tout simplement, d'aller faire de la musique en Haïti. Je me disais qu'il n'y avait pas de raison que je donne des concerts un peu partout dans le monde, mais pas dans ce pays qui était aussi le mien. Et puis, je me suis heurtée à un obstacle qui était qu'il n'y avait plus de pianos de concert en Haïti. On trouvait des pianos droits dans les écoles de musique, des pianos en mauvais état pour la plupart, et pas un vrai piano de concert permettant de faire un concert de qualité. Et c'est comme ça que ce projet est né. Je me suis dit, je dois trouver le moyen de faire venir un piano en Haïti, pas pour faire mon concert, mais pour créer quelque chose autour de ce piano. J'avais la conviction qu'un piano, comme d'autres instruments de musique, mais comme c'est celui que je pratique, c'était mon idée, en tout cas, qu'un piano pouvait être vraiment un instrument symboliquement rassembleur, qui permettait de jouer tout style de musique. Et donc l'idée, c'était a été de créer un festival et des ateliers pour les enfants haïtiens, des ateliers de création, des ateliers de composition, des ateliers d'instruments, des masterclass, etc. Et voilà, donc c'est un projet un peu fou que j'ai lancé avec toute une équipe, avec une association qu'on a montée pour ça. J'ai lancé ça il y a un peu plus d'un an maintenant, et le premier festival a eu lieu, le piano est arrivé en Haïti, après un long périple, et c'était...
Il a fallu l'adapter
Il a été fabriqué spécialement pour supporter les climats tropicaux, donc c'est un piano qu'on appelle tropicalisé, qui permet de mieux résister à l'humidité. Et donc ce festival, ça a été vraiment pour moi un moment très très fort de rencontre avec le public, mais aussi avec des musiciens haïtiens, des artistes haïtiens, des poètes, des peintres, des écrivains, parce qu'il y a vraiment une culture en Haïti qui est extrêmement riche et foisonnante. C'est un peu comme si tous les Haïtiens étaient artistes. En fait, à tous les coins de rue, on voit des gens qui peignent, qui sculptent avec ce qu'ils récupèrent dans les rues. Il y a énormément de poètes et d'écrivains, et une grande tradition comme ça, ou en tout cas un vrai amour pour les mots, en français ou en créole. Et ce festival, ça a été... tous les concerts étaient gratuits, donc c'était vraiment ouvert à tous. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues au concert sur une semaine. J'avais vraiment envie, en fait, et je crois que c'est ça j'espère que c'est ça qui a été perçu, que j'avais vraiment envie de contribuer, en tout cas, à donner un regard positif sur Haïti, à avoir un autre regard d'Haïti. Même si, comme je le disais, on connaît bien les peintres et les écrivains haïtiens, mais quand même, on a toujours tendance à parler d'Haïti pour parler de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui est, difficile d'un point de vue économique, social, politique, etc. Et je me disais, il n'y a pas de raison, il y a des beaux festivals de piano ailleurs dans le monde, il doit y avoir un beau festival de piano aussi en Haïti. Voilà, c'était un rêve.
On a reçu la romancière Yannick Lahens cette année, qui disait justement ça, que dans cette société qui peut être traversée par énormément de crises, la question de l'art est quand même omniprésente, et qu'il n'y a pas d'opposition.
C'est une question centrale, exactement.
La situation et le fait qu'il y ait de l'art.
Au contraire, je pense vraiment au contraire, c'est-à-dire que plus les situations sont complexes, plus le besoin de s'exprimer est grand, et plus on se rapproche de notre besoin de dire les choses et de les exprimer. La société haïtienne, c'est tout sauf une société formatée, donc s'exprimer, crier ce qu'on a à dire, le danser, l'écrire, ça fait vraiment partie de la culture de chacun. Et il n'y a pas tellement de tabous en matière d'art non plus. Ce que j'ai ressenti en Haïti, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas ce clivage qu'on peut parfois ressentir entre musique classique et, je sais pas, musique populaire ou jazz. Enfin, quand j'ai proposé ce festival là-bas, avant de lancer le projet, je suis allée d'abord en Haïti, j'ai parlé avec énormément de monde, je leur ai parlé de cette idée. Je voulais savoir si ça faisait sens pour eux, sinon je l'aurais évidemment pas fait. Et en fait, les gens trouvaient curieux que je parle de musique classique, en fait. Et donc, ce qu'on m'a donné comme réponse en Haïti, c'est un festival de musique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire que c'est de la musique classique ou une autre forme de musique ? Et ça, j'ai beaucoup aimé.
La question de la transmission, elle est assez importante chez vous, puisque donc vous donnez un certain nombre de masterclass. Pourquoi ? C'est important pour vous de transmettre la musique ?
Je trouve que à travers la musique, on apprend énormément de choses. On apprend l'écoute. On apprend l'écoute de l'autre, mais aussi l'écoute de soi. On apprend une certaine forme de goût du travail, vraiment, enfin, au sens noble du terme, le travail, le labeur au sens noble du terme. C'est-à-dire que quand on étudie la musique, on part de rien, on part d'une partition qui nous est donnée, on n'a rien d'autre, et on doit tout construire de zéro. Et tout peut nous échapper, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a travaillé pendant 6 mois quelque chose que c'est acquis. À chaque fois, il faut se remettre au pupitre tous les jours et recommencer. Donc, bien sûr, il y a des acquis, hein, tout ne s'envole pas. Et donc, je trouve que c'est une très, très belle leçon de vie, de manière générale. Ce goût du travail, de l'effort et de l'immatériel. De s'attacher à l'immatériel et en même temps à la beauté. Et j'aime essayer de communiquer ça aux jeunes, de manière générale. Moi, c'est ça qui m'a animée quand j'étais enfant. C'est ça qui m'a donné envie d'être pianiste. Ça me faisait rêver, ça me faisait cette musique, ça me bouleversait, j'en avais des frissons. Je me souviens, les premières œuvres que j'écoutais toute seule dans ma chambre, les premiers CD que j'achetais, j'étais vraiment bouleversée d'entendre ça. Et ce que j'ai ressenti, ces émotions que j'ai ressenties et tout ce monde qui s'est ouvert à moi de beauté, j'ai envie de le transmettre. Et donc de le transmettre aussi bien en Haïti, mais ailleurs. Et puis transmettre, c'est aussi rencontrer l'autre. Moi, j'apprends beaucoup quand je transmets. C'est pas à sens unique. C'est pas moi qui déverse mon savoir sur une jeune génération. Voilà, j'apprends aussi beaucoup des réactions des autres, de leur histoire, de leur parcours, de leur manière de voir la vie, d'entendre la musique. Enfin, j'apprends énormément. Donc, c'est dans la transmission, ce qui me plaît, c'est la rencontre.
On dit souvent, enfin, on a l'habitude de dire que la musique, c'est quelque chose dont il est très difficile de parler. Ouais, comment vous recevez, vous, cette idée-là?
Oui, c'est vrai que la musique peut se passer de mots quand même. Il suffit de l'écouter pour en être persuadé, je crois. Mais et donc je trouve que c'est très difficile d'en parler. C'est effectivement très, très difficile de mettre des mots déjà sur des émotions et sur une forme d'expression qui dépasse les mots, dépasse la langue. Parfois, on entend dire la musique est universelle. Alors c'est une expression un peu comme ça qui veut tout et rien dire, mais quand même. Dans ces expressions qui veulent tout et rien dire, il y a du vrai. C'est-à-dire que et c'était ce que j'ai ressenti en Haïti, c'est-à-dire que c'est pas parce que la musique classique n'est pas la musique la plus entendue qu'elle n'est pas accessible. Donc on n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin d'expliquer. On a juste besoin d'être en condition pour écouter, d'être vraiment là, d'être vraiment présent. Donc c'est un temps important, je crois, le temps de l'écoute de la musique.
Thank you.
Mais je pense qu'il faut d'abord tourner autour de l'instrument, le cerner. Vous savez, un piano, c'est quelque chose d'imposant. C'est pas du tout, je pense, la même conception du rapport entre l'interprète et son instrument, tel qu'un instrumentiste à cordes peut le concevoir. Je pense. Alors ça, on aborde un problème très important, c'est la distance de l'interprète par rapport à l'instrument. Prenons le cas d'un instrumentiste à cordes, violoniste, altiste, violoncelliste, et des instrumentistes avant aussi. Je pense qu'il y a vraiment un contact direct. L'interprète entoure l'instrument, je pense qu'il y a une possession complète et physique. Dans le cadre du piano, il y a une distance par rapport à l'instrument. Cette distance, il faut arriver à la briser, parce que le contact se fait par l'intermédiaire des mains. Et puis il y a encore 2 ou 3 mètres derrière, qui sont loin, on voit à peine ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense qu'il faut arriver à briser cette distance dans l'espace, et vraiment un obstacle à franchir. Un piano est quelque chose de très fragile, et comme tous les instruments, il exige des soins, il exige des réglages, parce que le bois, qui est la matière principale, est sujet à beaucoup de variations de température, et on peut dire qu'il n'y a pas de mois sans que la sonorité évolue, change, se détériore, même suivant, l'humidité, la sécheresse, tout ça. Il faut arriver à compenser par un fil, une espèce de fil conducteur qui est la sonorité habituelle, normale de l'instrument, plus ou moins belle selon la qualité de l'instrument. Et bon, je pense que dans mon cas, j'ai un bel instrument auquel je me suis habitué et qui parfois me laisse un peu déçu parce que justement, il faudrait sans arrêt avoir un technicien qui soit là, qu'il règle, qu'il accorde. Et il faut arriver à passer outre. Et c'est là où je pense où l'interprète arrive à imprimer une certaine marque. Il est sûr qu'un piano que l'on a chez soi porte l'empreinte du propriétaire au niveau de la sonorité. On arrive à fabriquer la sonorité d'un piano, ça c'est sûr.
Céline Denet, on entend ici la voix du pianiste Jean-François Esser, en 1982, qui parle du rapport qu'il a avec cet instrument, le piano. Comment vous entendez cette parole-là, notamment quand il parle du fait de briser la distance, qu'il faut briser la distance avec le piano? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez éprouvé?
Oui, c'est un sentiment que j'ai éprouvé par moment. Le rapport à l'instrument, c'est quelque chose qui évolue perpétuellement, en fait. J'allais même dire d'un jour à l'autre. Il y a des jours où on se sent complètement en fusion avec son instrument, avec le son de l'instrument, où physiquement, notre corps est comme modelé avec l'instrument, et des jours où c'est comme un corps étranger, cet instrument. Vraiment, on se sent mal aimé par lui. Enfin, il y a des jours avec et des jours sans, c'est vrai. Et il y a une distance naturelle avec le piano, de par la morphologie du piano. C'est vrai que c'est pas un instrument qu'on a dans nos bras, qu'on tient complètement entre nos mains. On est assis face au piano, mais on tient pas notre piano avec nous. Mais je trouve que ce qui peut aider à réduire cette distance, c'est d'être vraiment toujours au cœur du son, de ne pas tellement analyser en permanence notre rapport physique avec la froideur des touches, mais plutôt d'essayer d'être dans un univers sonore et de créer un univers sonore et de se déconnecter un tout petit peu de la pure sensation physique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends plus que ce que je ressens. On peut être complètement trompé par ce qu'on ressent, en fait. On peut ressentir un bien-être fou au piano et que pour autant la sonorité soit pas si belle que ça. Et parfois, on peut se sentir, si on analyse bien, on peut se sentir un peu mal à l'aise et puis que ça crée, en fait, une sonorité tout à fait particulière, à la limite de la fragilité, mais du coup vraiment sensible, précieuse. Enfin, donc je trouve qu'il faut parfois arriver à se décentrer de nos propres sensations, même si c'est important de tenir compte du corps, qui est aussi notre instrument. En fait, c'est comme si on était deux instruments ensemble, à travailler ensemble. Notre corps, notre respiration, notre posture, tout ça participe à la production sonore. Mais c'est toujours... Je pense que le rapport du corps à l'instrument ne doit être orienté que par l'idéal de production sonore.
Que par le compositeur. aussi si, par
le compositeur, en tout cas ce que le compositeur a souhaité, mais parce que ce que le comment dire ça que le son est finalement l'objectif final. La musique, c'est du son. L'objectif, c'est pas tellement de savoir comment on se positionne, est-ce qu'on se sent proche ou loin de l'instrument. C'est vrai qu'on est loin de cet instrument par nature, mais pour moi, l'objectif, c'est le son avant toute chose. Le son et rien d'autre. C'est ça qui fait la musique, le son.
Merci, Célimène Daudet.
Merci à vous.
L'album Messiaen Debussy, prélude pour piano, est paru sous le label Nomad Music. Je signale que vous donnerez une masterclass le 3 juin prochain dans le cadre du Festival des amateurs virtuoses qui aura lieu à Paris du 28 mai au 3 juin. Qui court, quelle couleur?
Gris veiné d'oranger.
Par les temps qui courent, quel livre garder constamment ouvert?
L'anthologie de la poésie haïtienne qui a été faite par James Noël, le poète haïtien.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire?
Je pense qu'on doit rire de tout.
Par les temps qui courent, vous retrouverez Marie Riche lundi à 21h avec l'écrivain Dominique Fourcade. Ce soir au son, c'était Philippe Thibault, Milena Hellig à la réalisation. Laure Chastan, Jeanne Aléos et Oriane Delacroix pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.